Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette quatrième séance du cours pour l'année 2022 où nous allons continuer à parler d'Abdulhamid, du régime d'Abdulhamid. L'intitulé du cours « Terreur et violence », ne me demandez pas pourquoi j'ai mis l'un au singulier et l'autre au pluriel. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu les mettre les deux au pluriel ou les deux au singulier. Mais en tout cas, c'est un thème récurrent, un thème sous-jacent du règne d'Abdulhamid, à la fois par ce que le sultan lui-même inspire à la population, par la violence qu'il exerce ou qu'il fait exercer ou qu'il laisse exercer sur certaines portions de la population, mais aussi pour ce qu'il ressent. Il est lui aussi terrifié. Nous l'avons déjà dit, je vous l'ai déjà dit, il s'isole à Yıldız, il est paranoïaque, il a peur pour son régime, il a peur pour son trône, il a peur pour sa personne. Et d'un certain point de vue, les faits prouveront qu'il n'a pas entièrement tort. Mais il est mu par la terreur, il est mu par la frayeur, par l'effrayeur, et c'est un élément qui explique en grande partie la manière dont il se comporte, la manière dont il envisage son règne, son gouvernement. Donc, tout en parlant de son règne, de la structure du pouvoir qu'il établit à partir des premières années de son règne, de plus en plus confortablement, ainsi que vous le verrez, tout en parlant de ces généralités-là, nous essayons de traiter de certains exemples qui correspondent à cet intitulé, à cet échange de violence, à cet échange de terreur, de peur, de frayeur. L'image, puisque je dois à chaque fois rendre compte de l'image que j'ai choisie, l'image que j'ai choisie cette fois-ci, je crois qu'elle parle assez bien, je n'aurai pas autant de difficultés à la commenter que pour d'autres, puisque c'est un événement précis, le 20 mai 1878, un événement violent et un événement qui est probablement le premier qui tente de déstabiliser, voire même de détruire la puissance d'Abdulhamid. Il s'agit de l'assaut, de la prise d'assaut du palais de Turan. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Istanbul, ce palais, après avoir brûlé en 1910, a été rebâti, reconstruit, et comme tout palais au Moyen-Orient, est devenu un hôtel de luxe. C'est le Turan Kempinski Hotel. Je leur fais de la pub. Et c'est un palais qui a été bâti par Abdulaziz, le prédécesseur d'Abdulhamid, prédécesseur d'Abdulhamid et aussi de Mourad, le pauvre Mourad qui ne régnera que pendant 93 jours, à peine 3 mois, dans un style, on ne le voit pas très bien ici, mais l'autre image est plus parlante car j'en ai deux, dans le style mauresque dont j'ai tellement parlé quand je parlais de l'Alhambra, quand je parlais de l'engouement de l'élite ottomane et notamment de la couronne du sultanat, pour certains styles qui leur paraissaient particulièrement attrayants parce qu'ils étaient orientaux, ne se doutant pas que ce style était en fait un dérivé du style un peu pompier qui avait été créé à partir de l'Alhambra par des architectes occidentaux, des architectes et des dessinateurs occidentaux, et qui était utilisé en Europe plutôt dans le secteur, disons, du divertissement. Les grandes expositions, les expositions universelles, mais aussi, vous le savez probablement, à partir des années 1860-70, le moindre cabaret, la moindre salle de spectacle s'appelle soit Alhambra, soit Alcazar, et reprend justement ce style. Donc c'est de l'orientalisme pur, repris par les Ottomans, et dans leur cas, utilisés et appliqués à des structures qui n'ont rien de divertissant, ou si l'on veut considérer quand même qu'un palais, c'est un lieu de relaxation, disons, mais des bâtiments publics aussi, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Donc il y a une sorte d'ironie, si vous voulez, à voir un style un peu de foire, être utilisé, être repris par les Ottomans pour signifier leur propre identité dans un contexte officiel. Mais ce palais de Tchoulahan, c'est le palais qui servira de résidence forcée à Mourad, le sultan Mourad V, lorsqu'il sera destitué, lorsqu'il sera détrôné le 30 août 1876, pour faire place à son demi-frère Abdulhamid. C'est donc un palais qui se transforme en prison, puisque, je vous l'ai déjà raconté, Mourad y est emprisonné, il est assigné à résidence avec toute sa maisonnée, et la maisonnée d'un sultan, même déchu, ça va chercher dans les 100 personnes au moins, pour la plupart, des femmes, des esclaves, des concubines, quelques eunuques et bien sûr les membres de la famille du sultan. Et justement le 20 mai 1878, donc presque deux ans après la déchéance, après la chute de Mourad, vous vous souviendrez aussi que Mourad représentait dans les esprits libéraux et progressistes de l'Empire, représentait l'avenir doré de l'Empire, un avenir qui serait constitutionnel, un avenir qui serait tourné vers l'Occident. Et par conséquent, après sa chute, qui était légitime, puisqu'elle était sanctionnée par une fatwa, une opinion du cheikhul islam, pour démence, elle était justifiée aussi parce qu'il était, il avait vraiment perdu la raison, même si c'était momentané et qu'il s'est rattrapé par la suite, mais il avait conservé un parti, des partisans, des gens qui le soutenaient et qui voyaient en lui l'espoir de l'Empire ottoman et qui voyaient au contraire dans Abdulhamid l'incarnation du mal, l'incarnation de la réaction, du conservatisme. Et par conséquent, l'image de ces deux frères en Abel et Caïn est quelque chose qui est profondément ancré dans la tradition historique ottomane et turque. Et le 20 mai, un événement majeur, un certain Ali Souhavi, dont je vous ai aussi parlé, puisqu'il faisait partie de cette première génération de jeunes ottomans, de jeunes turcs, ceux qui militaient ou qui écrivaient pour un système parlementaire, pour le constitutionnalisme, qui rêvaient de voir l'Empire adopté déjà sous Abdulaziz, donc dans les années 1860, adopter une constitution et par conséquent se débarrasser de l'oligarchie que représentait la clique des hommes d'État des Tanzimats. Donc même si le sultan était visé, le sultan ne gouvernant pas vraiment, mais régnant, et cette distinction est importante, j'y reviendrai, c'est bien sûr le système lui-même, le système des Tanzimats, ce système qui se voulait progressiste, réformateur, mais qui ne croyait qu'en la possibilité d'imposer le changement par le haut, par la force, par la loi, mais aussi à coup de trique si nécessaire. C'est un peu ça les Tanzimates. Le paradoxe, si vous voulez, des Tanzimates, c'est que c'est un mouvement qui va dans le sens du progrès, mais qui ne le fait pas forcément d'une manière extrêmement démocratique, n'en parlons même pas, mais participative. Et par conséquent, ce premier groupe d'opposants au régime était assez hétéroclite. J'en ai parlé la dernière fois quand j'ai parlé des sources du parlementarisme et du constitutionnalisme dans l'Empire ottoman, hétéroclite, puisqu'il y avait à la fois des hommes tels Mithat Pacha, qui étaient extrêmement occidentalisés et qui voulaient embrasser la manière occidentale de passer au constitutionnalisme, mais aussi beaucoup d'intellectuels pour qui la réforme devait passer par la reconnaissance de la suprématie de l'islam. Et que par conséquent, c'était ce qu'ils appelaient Meshveret, la consultation, qu'ils disaient exister dans l'essence de l'islam, qu'il fallait appliquer au système pour atteindre une forme de constitutionnalisme qui resterait compatible avec l'islam. Ali Souavi était l'un de ces intellectuels. Il a passé d'ailleurs de nombreuses années en France, dans les années 60, lorsque ces intellectuels, ces opposants du régime s'étaient exilés, auto-exilés, ou qu'ils avaient dû quitter l'Empire. Et il était revenu avec les années 70, notamment avec l'avènement de Mourad et la libéralisation du système, mais il avait maintenu, n'est-ce pas, sa conviction, son engagement dans une réforme islamique du régime. Après la chute de Mourad, il semble qu'il ait conservé des sympathies pour ce sultan déchu, et donc en 78, un an et demi après la chute de Mourad, il organise un coup de force pour sauver Mourad, pour le libérer de sa prison et pour le rétablir sur le trône que Abdulhamid avait usurpé. C'était sa vision. Et pour le faire, il profite de quelque chose dont nous avons déjà parlé. Il profite du chaos de la défaite. Vous vous souviendrez, depuis 1976, l'Empire est en guerre, la Serbie, le Monténégro, il y a l'insurrection bulgare, et ensuite il y a la guerre russo-ottomane, qui se termine par une défaite dès janvier 1878, et en mars, signature de ce traité de San Stefano, qui en quelque sorte signe l'arrêt de mort de l'Empire. Parallèlement à cette défaite, vous avez un flot continu de réfugiés, ce qu'on appelle les muhajir de hijret. Vous connaissez probablement le terme hijra, l'égir, c'est-à-dire une émigration, puisqu'il s'agit de l'émigration du prophète Mahomet. Et c'est ce qui débute le calendrier dit de l'égir. Muhajir est un dérivé de hijra, ce sont des réfugiés, ce sont des émigrés ou des immigrés. Ce sont des gens qui bougent, mais dans la souffrance. Il y a toujours un concept de souffrance, de perte des terres qui est lié à cette identité des Muhajir. C'est un phénomène nouveau, puisque l'Empire a perdu des territoires, mais jamais dans les proportions de cette défaite de 1878. On parle de 1,5 million de réfugiés. C'est énorme, c'est un chiffre qui est peut-être exagéré par l'historiographie ottomane, mais surtout turque, puisque c'est un des arguments principaux que l'historiographie turque va utiliser pour contrecarrer les accusations de massacre et de génocide contre la population arménienne. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Comme si, n'est-ce pas, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ce que c'était probablement pour certains des perpétrateurs des massacres, mais ce n'est pas comme ça que l'on fait et que l'on explique l'histoire. Toujours est-il qu'il y a un flot de réfugiés, et ces réfugiés sont sans toit, sans loi, sans emploi, on trouverait peut-être un autre, sans loi, et par conséquent, extrêmement facile à embrigader dans une aventure comme celle d'Ali Souhavi. Et c'est donc à la tête de 200 muhajirs, 200 et quelques muhajirs, donc 200 réfugiés, des musulmans des Balkans, qui se retrouvent complètement désemparés à Istanbul, qui se lancent à l'attaque du palais de Turan. Et cette attaque est immédiatement contenue, écrasée par Hassan Pasha, Yedisekiz Hassan Pasha, le commissaire du poste de police de Beşiktaş, qui se trouve à deux pas du palais de Çelahan. Et cette tentative est écrasée dans le sang. Alors, la représentation que vous avez ici, c'est encore le monde illustré cette fois-ci. La représentation, bien sûr, est tout à fait fictive. Elle est tout à fait imaginée. Mais c'est ce que disent les sources écrites, les témoignages de l'époque, que l'armée, les gendarmes, se lancent à l'assaut de ces pauvres gens mal armés et que, surpris, ne sachant pas vraiment ce qu'ils sont là, ce qu'ils sont censés faire dans le palais, mal organisés, ils succombent aux balles et aux coups de trique des gendarmes. C'est un carnage. L'image suivante provient de l'illustration. Une revue un peu plus sérieuse, enfin un peu plus sérieuse, un peu moins sensationnelle, un peu moins penchée vers l'usage du sensationnel, à la même date. Et ce qui a l'air d'intéressant, c'est qu'on y voit l'architecture du palais. Et comment l'a-t-on ? C'est-à-dire que c'est toute l'ironie de la production des images en cette fin du XIXe siècle. Les images proviennent d'albums photos qui ont été produits à peu près une dizaine d'années plus tard par le sultan Abdulaziz pour célébrer la beauté du nouveau palais qui s'est fait construire. Donc, on fait encore une fois, comme c'était le cas la dernière fois, pour ces reconstitutions des atrocités commises par les Bulgares envers les femmes turques, les femmes musulmanes, on fait du coupé-collé, on fait du photoshopping et on place des cadavres, des attaquants, dans un cadre architectural qui est bien documenté grâce à la photographie. C'est un événement violent et c'est un événement qui probablement marque le début de ce qu'on appelle la paranoïa d'Abdul Hamid. Il a toujours été assez attentif à sa santé, il a toujours eu quelques inquiétudes, mais après cet événement, il est persuadé que certains groupes armés lui en veulent et que par conséquent, il risque à tout moment d'être tué et d'être détrôné. Et c'est à partir de 1878, à partir de cet événement, qu'il va de plus en plus se renfermer derrière les murs de Yıldız. Donc, voici un événement qui correspond exactement à ce va-et-vient que j'évoquais entre violence et terreur, terreur du sultan, recours à la terreur par des gens qui veulent rétablir le sultan déchu, et violence perpétrée contre les mouhajirs, les réfugiés qui ont participé à ce coup de force. Voilà l'image et les images que je pense être assez bien placées pour parler, pour justifier le titre que je donne à ma leçon. Comme j'essaye de le faire aussi souvent que possible, quelques lectures que je vous conseille. François Georgeon, je vous l'avais déjà donné, mais étant donné la centralité de son ouvrage, c'est vraiment la seule biographie d'Abdul Hamid, et d'ailleurs c'est plus qu'une biographie, puisque c'est une étude de son règne et de toute la complexité de l'histoire ottomane pendant ses 30 ans de règne. Je vous le redonne parce que c'est un incontournable. Les autres sont plus pointus. Olivier Bouquet, son Pacha du Sultan, est, comme il le dit lui-même, un essai sur les agents supérieurs de l'État ottoman. En gros, c'est une prosopographie très systématique de ce qu'on appelle le Pacha. C'est-à-dire, le Pacha, un Pacha n'est pas une fonction. Pacha n'est pas une fonction, c'est un titre. C'est donc une section de l'élite qui se définit, et je crois qu'Olivier Bouquet disait la pachitude, pourquoi pas, dans la pachitude, c'est-à-dire dans une reconnaissance de son appartenance à une certaine classe gouvernante. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est comment fonctionne la fabrique des pachas. Puisqu'il faut quand même savoir qu'il y a un changement majeur au XIXe siècle par rapport au siècle précédent, c'est que la carrière bureaucratique, administrative, militaire devient de plus en plus moderne, de plus en plus rationnelle. Vous savez qu'au début, les Ottomans recrutent et forment leur bureaucratie méritocratique à partir de moyens qui surprennent. Par exemple, la levée des enfants, le devşirme. Et par conséquent, les Ottomans, dans la période dite classique, ont cette vision de la possibilité de créer un pacha, de créer un haut dignitaire à partir de rien. C'est-à-dire, c'est presque platonicien, de créer un homme qui servira à l'État à partir d'une pâte, d'une levure humaine extrêmement simple, en lui inculquant toutes les valeurs, dont l'islam, puisqu'ils sont convertis, et en faisant la machine administrative idéale. Et la machine de guerre, c'est le principe des janissaires. Évidemment, c'est un système qui ne marche pas parfaitement, il y a toujours des failles, il y a toujours des tendances aristocratiques, oligarchiques, mais ça reste quand même un système qui repose sur le déracinement des individus, soit par cette levée des enfants, ou alors par le recrutement d'esclaves. Au XIXe siècle, on se modernise et par conséquent, on commence à parler de carrière. Et par conséquent, on commence à recruter des gens non pas en bas âge, mais à un âge où ils peuvent être formés aux sciences nouvelles, à la géométrie, à l'algèbre, à l'histoire, et deviennent en quelque sorte des bureaucrates à l'occidental. Donc c'est cela que Olivier Bouquet étudie à partir d'un instrument extraordinaire qui doit son existence à Abdul Hamid, c'est les dossiers des personnels, les états de service des bureaucrates. On en compte à peu près 35 000 dossiers individuels de bureaucrates ou de militaires au service de l'Empire à partir des années 1870-80. C'est vraiment au début des années 80 que le service de ces dossiers est ouvert, et pendant 30 ans, voire un peu plus, il y aura un suivi systématique de tous ces individus. Ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est que vous arrivez à reconstituer des carrières et à décortiquer les dynamiques qui régissent cette élite bureaucratique. Parmi ces 35 000, Olivier Bouquet, on a choisi, il en a picoré quelques 250, tous pachas, pour essayer de voir comment ça marche, comment se produit se reproduit, puisqu'il y a aussi des questions de filiation et de lignage, comment se reproduit cette classe. Jacques Toby, qui n'est malheureusement plus parmi nous, il est décédé l'année dernière. Jacques Toby, c'est sa thèse qu'il avait défendue en 1973 et qu'il a publiée en 1977. Ce n'est pas très facile à trouver. Ce n'est pas très facile à lire non plus. C'est un pavé de 800 et quelques pages, mais qui décortique un aspect tout à fait essentiel de la période hamidienne, de la fin du XIXe siècle, l'impérialisme français dans l'Empire ottoman. Et par conséquent, c'est un peu technique, si vous voulez, mais c'est une excellente source pour quiconque veut pouvoir percer les mystères de la pénétration économique, financière de l'Empire ottoman par des capitalistes français et jusqu'à un certain point belges. Noémie Lévy-Axou, une ancienne collègue à l'université de Boazice, Ordre et désordre, vous voyez qu'il y a là aussi un jeu entre le singulier et le pluriel, Ordre et désordre dans l'Istanbul ottomane, 79-1909. 79-1909, c'est le règne de Hamid, à quelques années près. Et c'est un excellent ouvrage qui parle justement du côté pratique des choses, c'est-à-dire la jonction de l'idéologie, celle du conservatisme et de ce recours à la violence pour essayer de supprimer toute velléité d'autonomie ou de désordre, de la pratique policière. Elle y décrit des phénomènes que j'ai évoqués, tels l'état de siège. Vous vous souviendrez que c'était un des alinéas de l'article 113 de la Constitution, celui de la liberté au gouvernement de décréter l'état de siège en cas de trouble. Donc, une excellente étude sur le côté pratique, les mécanismes de l'oppression, de la répression et du contrôle dans la ville, en particulier à Istanbul, évidemment, sous Abdülhamid. Les deux autres sont des ouvrages qui datent, mais qui sont intéressants. L'un, parce que c'est un témoignage évidemment partiel, comme la plupart des témoignages, mais qui décrit assez bien Constantinople au dernier jour d'Abdülhamid par un certain Paul Fesch qui se trouvait à Istanbul justement à cette époque-là, vers 1905, et qui décrit avec parfois beaucoup d'humour la situation de la capitale de l'Empire ottoman sous la férule d'Abdülhamid. Et enfin, Gilles Roy, Abdülhamid le Sultan Rouge, un de ces classiques de condamnation d'Abdülhamid comme sultan rouge, comme grand seigneur avec A.I., comme boucher de l'Arménie, c'est-à-dire une diatribe contre Abdülhamid qui date bien sûr des années 30, mais qui rend bien les mentalités de la période. Alors voilà, le quelque chose, trêve, n'est-ce pas, d'exotisme, à force de vous montrer des gens turbanés et portant le fez, se chamaillant dans les rues de Istanbul, je vais vous donner une image un peu plus familière. Beaucoup auront reconnu quelque chose que l'on peut encore voir dans la Galerie des Glaces de Versailles, une des nombreuses allégories à la gloire de Louis XIV. Celle-ci, elle a un nom particulier parce que ça n'est pas vraiment évident. Hein, si vous regardez la composition, bien sûr, il y a la gloire, il y a la guerre, il y a Mars, il y a tout ce que vous... Il y a même, chose assez surprenante, vous avez des chérubins qui jouent aux cartes. Je ne sais pas quel sens allégorique cela peut bien avoir, mais bon, c'est l'allégorie du roi qui gouverne par lui-même, ce qui fait partie de la construction de l'image de Louis XIV. Alors, la comparaison est à la fois un peu hardie et un peu facile, deux siècles d'écart, est-ce qu'on parle de la même chose ? Pas forcément, mais j'insiste encore une fois sur la distinction entre gouverner et régner. Puisqu'un sultan règne, et en tout cas depuis la fin du XVIe siècle, ils ne font en général que régner. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans la politique telle qu'on l'imagine aujourd'hui, dans la course, dans la course des affaires au quotidien. Ils sont déjà retranchés derrière la troisième porte du sérail, retranchés dans le harem. Le harem n'étant pas nécessairement uniquement féminin, c'est vraiment la totalité de la troisième cour, ce sont les appartements privés du sultan, et ils n'en sortent que très rarement, je vous l'ai déjà dit, pour des processions rituelles qui sont essentielles pour la conservation de la légitimité du sultan, très symbolique. Ils ne vont plus à la guerre, ils ne participent plus vraiment aux réunions du Conseil. Donc le système est géré plutôt par la bureaucratie. Et cette bureaucratie, on le sait, elle est divisée en plusieurs factions. Il y a les oulémas, il y a les vizirs du divan, il y a les janissaires. Vous avez de fait une situation de parti politique qui gère avec plus ou moins de bonheur, plutôt moins que plus, le quotidien de l'Empire. Le sultan, bien sûr, est intouchable. Il est intouchable jusqu'à ce qu'il soit déchu. Le sultan, et ça, c'est une différence essentielle d'avec les monarchies occidentales, le sultan n'est pas vraiment sacré. Même s'il est identifié à l'État, sa personne est peut-être éliminé, sans qu'il y ait remise en cause de la légitimité du système ou de la dynastie. Ce qui explique qu'à partir du XVIe siècle, vous avez beaucoup de révolutions de palais qui se terminent très mal à partir du XVIIe siècle, qui se terminent très mal pour le sultan, sans que pour autant le système s'en ressente vraiment. Il n'y a que des cas très particulier au XVIIe avec Ibrahim et au XIXe, au début du XIXe avec Mahmoud II, des cas très particuliers où le dernier rejeton de la famille est unique. Il n'y a plus de descendants mâles de la dynastie. Et c'est là que se pose la question de s'il venait à disparaître, naturellement ou pas, comment va se poursuivre l'État ottoman, puisqu'il y a association entre l'État et le sultan. Et au XIXe siècle, on a pensé à la possibilité d'importer une famille régnante de Crimée, par exemple. Les Giray de Crimée, qui sont de souche noble, qui sont, entre guillemets, turcs, et qui, par conséquent, pourraient le cas échéant, remplacer la dynastie si celle-ci venait à s'éteindre. Mais en gros, nous avons un système, le système classique, qui fonctionne sans que le sultan ne participe vraiment, même s'il est souvent consulté, même si pour la forme, il donne des hat humayun, c'est-à-dire des décrets impériaux, il est très peu actif dans ce qu'on appellerait le gouvernement. Certains en font plus, Selim, troisième du nom, à la fin du XVIIIe siècle, sera plus actif, il a des idées de réforme, et par conséquent, il a certaines politiques, et ces politiques, d'ailleurs, seront la raison de sa chute en 1807. Mahmoud II, nous l'avons vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, Mahmoud II est très actif, il se démène. Ça n'est pas vraiment qu'il gouverne, mais en tout cas, il essaye d'être présent, il essaye de se libérer du carcan du palais, et par conséquent, on le voit dans la rue, on le voit à l'exercice des troupes, et il s'engage directement dans certains des actes les plus violents, les plus marquants de son règne, tels la destruction des janissaires en 1826. Dans ce cas, c'est pratiquement une vengeance personnelle, puisque les sultans, ses prédécesseurs, bien d'entre eux, sont tombés sous les coups des janissaires. Donc là, il y a une sorte de vendetta entre le sultan et les janissaires. Et on a vu que Mahmoud II a énormément d'idées de réformes qu'il emprunte un peu n'importe comment à l'Occident et qu'il essaye d'imposer à son entourage. Donc, il est beaucoup plus actif. C'est un autocrate. Mais ses successeurs, Abdulmejid ou Abdulaziz, même si on leur connaît des tendances politiques assez marquées, Abdulmejid est très occidentaliste, Aziz, au contraire, va essayer de se démarquer de son frère et son prédécesseur en épousant une politique plus ottomane et plus islamiste, mais il reste quand même très limité dans la gestion des affaires, et c'est d'ailleurs tout le sens des Tanzimat. Les Tanzimat, le décret des Tanzimat et la bureaucratie des Tanzimat sont nés d'un désir de se défaire de l'autocratie du sultan, Mahmoud II, et de la remplacer par une autre forme d'autocratie, enfin, pas vraiment une autocratie, ce que j'appelais une oligarchie, un système qui est géré par cette clique d'hommes d'État. Abdul Hamid est différent. Lui, il ne se contente absolument pas de régner, et dès le départ, il est plongé dans la politique. Il est actif. Il est actif, croit-on, avant même d'accéder au trône, avant même son avènement. Mais à partir de son avènement, et on l'a vu avec la Constitution, il s'implique directement et de manière fort astucieuse. L'article 113, celui qui lui permet de se débarrasser de Mithat Pacha quelques mois plus tard, c'est un article que lui-même impose, lui-même insiste pour voir apparaître dans la Constitution. Il a un plan, il a des plans, et par conséquent, il s'engage, il s'implique directement dans la politique. Et c'est, je crois, au-delà du côté violent, du côté autocratique, je pense que c'est le principe de base qu'il faut souligner pour distinguer, pour définir son règne. C'est un sultan qui gouverne, qui veut gouverner, qui veut se donner les moyens de gouverner. Et par conséquent, il est évident qu'il n'a qu'une chose en tête, c'est de se libérer de toutes les entraves qui l'empêcheraient de le faire. Et ces entraves-là, c'est en quelque sorte les Tanzimat. C'est les quatre décennies à peu près de gestion de la Sublime Porte, de ce gouvernement rationnel, gouvernement qui représente une forme de l'état de droit, mais qui est très autoritaire dans son monopole, son désir de se créer un monopole du gouvernement. Il va donc devoir détruire, en quelque sorte, démanteler les Tanzimates pour asseoir son autocratie, pour transformer le système de manière à le rendre compatible avec ses ambitions de gouvernement. Et c'est pourquoi je pense qu'il est légitime, en tout cas amusant, de le comparer à Louis XIV, et comme je vous le disais, cela permet d'amener une touche locale à mes présentations. Pour expliquer le système d'Abdulhamid, je crois que le plus simple, c'est de se reporter aux publications contemporaines, c'est-à-dire notamment à ce qu'on appelle les almanachs de l'État. Les almanachs de l'État, malheureusement, sont uniquement en turc, en caractères arabes, à l'exception de quelques numéros. Mais l'annuaire oriental, qui est une sorte de bottin d'Istanbul et des provinces, qui commence à paraître à partir du début des années 80, est un bon indicateur, puisque au début de ce bottin se trouve une section entière consacrée à la fonction publique, au palais, au gouvernement, à tout ce que l'on devrait trouver, en fait, dans un almanach. Si vous connaissez les almanachs royaux ou les almanachs nationaux du XIXe siècle, dans le cas français, c'est à peu près le même modèle. Et la manière dont cet almanach présente le gouvernement, je trouve, nous explique bien comment, quelle image, quel plan Abdulhamid possède pour ce qui est de son État, son nouveau gouvernement, l'Empire ottoman, selon ses désirs. Alors déjà, vous voyez que Sa Majesté impériale, le sultan Abdulhamid Han, il est mis en exergue, surmonté des armoiries de l'Empire, on y reviendra, c'est une invention du règne hamidien et qui est intéressante pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle elle tente de représenter. Ensuite, vous voyez la maison de Sa Majesté impériale le sultan, quelque chose que l'on trouverait par exemple en France dans les années 60 sous Napoléon III, la maison de l'empereur. C'est un modèle moderne, mais appliqué à un système autoritaire, impérial de préférence. Et vous voyez, il y a tous les le grand maréchal du palais, etc. Donc toute la bureaucratie qui est proche du sultan. Encore une fois, quelque chose qui permet d'établir un petit parallèle avec Louis XIV, le fait de monter l'État de toutes pièces, le séparer de la ville, l'établir à Versailles et d'y attirer la cour, d'y attirer la noblesse pour la forcer à se conformer au rituel de la cour, pour en quelque sorte la subjuguer, pour la soumettre à la volonté et au bon plaisir du sultan. Donc, les secrétaires particuliers, les secrétaires du sultan, etc. Ensuite, un élément tout à fait nouveau dans la bureaucratie ottomane, la haute commission d'inspection militaire. Une invention, mais une invention qui a un objectif, celui de contrôler l'armée. Donc déjà, on voit que l'armée, qui a toujours été, et Dieu sait si Abdulhamid est conscient du fait que l'armée représente un véritable danger, après le coup d'État de 1876 qui a destitué son oncle Abdulaziz, il veut bien se garder de tout risque d'une armée rebelle, d'une armée qui aurait des velléités de lui imposer sa volonté. Et par conséquent, il crée de toutes pièces cette haute commission d'inspection militaire qui a l'air d'être à l'entendre inspection militaire, on imagine que c'est plutôt technique. Non, c'est vraiment le fait de vouloir contrôler l'armée. Et il y en brigade tous les hauts dignitaires de l'armée, tous les officiers de l'armée qu'il juge être loyaux, puisque son système repose plus que sur le mérite, sur la loyauté, sur la fidélité. Encore quelque chose que l'on peut rapprocher de l'absolutisme de Louis XIV. Vous avez les aides de camp généraux et la liste des aides de camp se poursuit. Vous avez même les aides de camp honoraires. Donc, on ne les comptera pas, on ne les énumérera pas, mais ça vous donne déjà une idée de ce petit monde qui gravite autour du sultan, autour du palais, et qui doit ses honneurs, sa puissance, sa présence, sa visibilité à la seule volonté du sultan. Les aides de camp, les généraux de division, maréchaux, généraux de brigade, etc., tout cela continue, et ensuite la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. Ministre d'État, conseiller et représentant de Sa Majesté impériale, le sultan, et là, vous avez la liste des ministres, avec, bien sûr, le grand vizir, qui est à la fois aide de camp général de Sa Majesté, le sultan. C'est la sublime porte, c'est le gouvernement, c'est ce que les Tanzimat ont essayé de créer, ont réussi à créer, c'est ce qui gouvernait le pays et qui maintenant est relégué à ce troisième rang dans la titulature et dans la nomenclature des fonctions au palais. C'est tout le gouvernement qui se trouve relégué à une troisième place après les aides de camp, après la commission, etc. C'est très surprenant, c'est très fort. Alors, cela ne veut pas dire que les ministères n'apparaîtront pas plus loin dans le détail de l'almanach. Vous avez bien sûr tous les ministères, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la première fois qu'ils sont cités, qu'ils sont placés, ils le sont à la queue de tout le monde qui représente le palais, l'institution centrale du système. C'est ça le régime d'Abdul Hamid. Pour gouverner, il lui fallait démanteler les Tanzimat. Il ne les détruit pas entièrement, il les réduit à une pâle imitation de ce qu'ils étaient à peine quelques années plus tôt, à une sorte de gouvernement, de pacotille, qui dépend entièrement de sa volonté. Et ce qui est très surprenant, mais maintenant logique, c'est qu'il n'y a qu'un ministère qui apparaît tout de suite parmi les institutions sacrées du sultanat, c'est celui de la liste civile. La liste civile, c'est le trésor du sultan, c'est sa cassette noire, ce sont ses moyens, et c'est très important pour lui, parce que ce sont les seuls moyens dont il dispose vraiment. Avec les réformes financières, avec la mainmise des porteurs occidentaux sur les revenus de l'Empire, il a un budget qui se rétrécit de plus en plus et dont une grande partie est sous contrôle occidental. Par conséquent, il doit se constituer un trésor particulier. Et pour ce faire, vous vous souviendrez que je l'avais appelé un roi bourgeois, il investit. Il investit par la force, c'est-à-dire qu'il acquiert des propriétés, il met à son nom des propriétés de l'État et il en tire des revenus, des bénéfices qui vont directement dans la liste civile et qui alimentent ainsi le budget immédiat dont il a besoin pour la plupart de ses actions, secrètes ou ouvertes. Par exemple, pour avoir travaillé sur la Banque impériale ottomane, je sais que s'il y a une forme de crédit que le sultan demande régulièrement et qui est acceptée par la banque parce que les garanties qui sont données sont extrêmement solides, c'est le crédit demandé chaque année pour la caravane sacrée pour la Mecque. Vous vous souviendrez de cette image, de cette caravane qui emmène à la Mecque les cadeaux du sultan en tant que calife. Cette caravane, elle est financée directement par la liste civile, et lorsque la liste civile n'en a pas les moyens, on emprunte, et on emprunte rubis sur ongle, avec des garanties qui défient toutes les autres garanties que l'État peut donner. Donc, voilà un aperçu général de cette machine étatique. Donc, concentration autour du palais, et bien sûr, amalgame entre les fonctions ordinaires, normales, officielles, et les fonctions officieuses. Il y a toute une mafia qui gravite autour de Yıldız. Il y a la camarille de Yıldız. Il y a des gens qui sont extrêmement puissants, qui n'ont pas vraiment de titre, mais qui participent de cette machine, notamment par le réseau d'espionnage, de délation, tous les réseaux parallèles ou souterrains qui permettent à Abdülhamid de s'informer à tout moment et d'essayer de contrecarrer toute velléité de subversion, etc., dans l'Empire. Donc, c'est une machine infernale. C'est une machine infernale qui réduit la sublime porte, le gouvernement, à son strict minimum et qui l'oblige à suivre le sultan. Et d'un autre côté, la création de réseaux tout à fait officieux, informels, qui permettent de tisser une sorte de toile tentaculaire à travers l'Empire qui fonctionne à partir de rapports de délation qu'on appelle « journal » en turc. Un journal, puisque c'était un rapport quotidien au départ, mais à la fin du 19e, ça devient vraiment un rapport de délation, un rapport d'espion, et tout un réseau d'espions, et bien sûr, toute forme de corruption que l'on peut imaginer pour alimenter la fidélité, garantir la loyauté des individus qui gravitent, qui forment ce système. Vous connaissez ma passion des décorations, mais aussi des graphiques et des couleurs. Mais je pense que c'est parfois utile, plutôt que de vous dire en quelques mots ce que j'appelle la stabilité gouvernementale, j'aime mieux vous la montrer. Stabilité, c'est-à-dire la longévité des mandats. C'est ça, puisque même sous les Tanzimat, les changements ministériels, les changements de cabinet étaient fréquents. Je pense avoir fait cet exercice sous Mahmoud II aussi, et pour vous montrer, après les Tanzimat, pour vous montrer qu'il y avait des factions, qu'il y avait des changements. Là, ce que l'on remarque très nettement, c'est que jusque vers les années 1880, il y a beaucoup de changements. Tout ce qui est en blanc, ce sont vraiment des mandats d'un mois, deux mois que j'ai laissés de côté. Et ensuite, vous avez quelques noms qui dominent. Saïd Pacha, qui reviendra 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saïd Pacha, fidèle des fidèles. Et pourtant, je vous raconterai dans un moment, terrifié par son maître. Kiramil Pacha, Ahmed Javad Pacha, Halil Javad Pacha, Felid Pacha, chacun d'eux restant des années en poste et assurant une stabilité dans un grand vizirat qui, de toute façon, est à la botte du sultan. Et par conséquent, la destitution d'un grand vizir ou d'un autre n'a plus à voir avec les circonstances politiques de l'époque pour satisfaire, en quelque sorte, un mécontentement diplomatique qu'une véritable politique du sultan, puisqu'ils se valent tous et ils sont tous plus ou moins à la merci du sultan. Le Cheikhul Islama, absolument contrôlé, puisque le Cheikhul Islam qui avait donné une fatwa pour la destitution d'Abdulaziz et ensuite pour celle de Mourad V, il sera immédiatement un Cheikhul Islam qui a déjà destitué 2 sultans. C'est exactement le genre de Cheikhul Islam qu'il ne gardera pas. Mais à partir de 79, Ahmed Esad Efendi, Ömer Lütfi Efendi et Mehmet Celaleddin Efendi de 1891 à peu près jusqu'à la fin de son règne. Pareil pour ce que j'appelle le Selaskerat, c'est-à-dire le généralissime de l'armée, celui qui justement représente l'emprise du sultan sur le corps militaire, la défense en quelque sorte contre toute velléité de rébellion. Osman Nouri Pacha, Ali Sahib Pacha, et c'est parce qu'il meurt que son mandat s'interrompt, et ensuite le Zaha Pacha. L'intérieur, extrêmement important, un outil très important, c'est par là que fonctionnent tous les systèmes de délation, d'emprisonnement, de garde à vue, etc. Là aussi, beaucoup de stabilité. De même pour les affaires étrangères, avec Kurt Saïd Pacha, c'est un autre Saïd Pacha, et Tevfik Pacha. Et encore plus de stabilité lorsqu'on regarde le palais, c'est-à-dire les premiers chambellans, puisque ce sont eux, en fait, qui gèrent l'interface entre le sultan et le gouvernement. Toutes les pétitions sont adressées aux chambellans ou aux premiers secrétaires du palais. Et ce sont eux qui dominent complètement je me suis trompé pour les noms. J'ai dû mal couper coller. En fait, il y a ici Sureya Pacha, Tarsin Pacha, Sureya Pacha et Ali Pacha. Et bon, peu importe les noms. En tout cas, les bandes coloriées sont exactes. Et c'est encore plus frappant dans le cas de la liste civile qui est confiée systématiquement à des Arméniens, Agop Kazazian Pacha, qui meurt en fonction, Mikhail Portokalian Efendi, qui meurt en fonction et qui est remplacé, lui, par Orhanes Sarkis Efendi jusqu'à la fin du règne. Donc on voit ce que Abdulhamid recherche. Voici le fameux Saïd Pacha, le fidèle des fidèles, qui était victime de bien des colibés, d'abord parce que c'était un homme de petite taille, avec une barbe hirsute, et recouvert de médailles. Je consacrerai un de mes séminaires à cette question, puisqu'il utilise la médaille, les décorations, comme un instrument de contrôle. Et il est donc représenté en tant que l'illustre Shapur Çelebi. Shapur Çelebi, c'est un personnage comique de la tradition anatolienne. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, et ça vous donne une idée de la manière dont le système fonctionne, à un moment, après les événements de 1895-96, les massacres d'Arméniens à Constantinople, Saïd Pacha a tellement peur de ce qui risque de lui arriver à cause du mécontentement d'Abdulhamid qu'il se réfugie, grand vizir, il se réfugie à l'ambassade d'Angleterre. Et il y reste 5 jours. Et ce sont des négociations entre le palais et l'ambassadeur d'Angleterre qui le libèrent finalement. Il demande des garanties pour sa vie et c'est uniquement là qu'il accepte de quitter la protection britannique. Je pense que ça vous donne une idée de la violence latente que représente cette autocratie pour un homme si haut placé, considéré comme le plus fidèle des fidèles et qui n'a d'autre recours pour échapper à l'ire du sultan que de se réfugier dans une ambassade, l'ambassade d'une des grandes puissances. Stabilité économique et financière. Vous vous souviendrez, l'année 75-76 est marquée par une crise financière, une crise économique des plus graves, notamment avec cette banqueroute à moitié annoncée d'octobre 75. Et il s'agit par conséquent de rétablir 2 choses, le crédit de l'Empire et la stabilité de la monnaie, puisque la monnaie traditionnelle, celle qui a été établie sous Abdulmejid, qui est fondée sur la parité or et argent, cette monnaie solide et trébuchante, elle est remplacée à partir de 1976 par des kaïmets. Kaïmets, papier-monnaie, lire assignat. Souvenez-vous, façon de parler, des assignats sous la Révolution et de la manière dont les assignats perdent de la valeur puisque c'est du papier inconvertible. Les Ottomans sont confrontés à ce même problème et c'est pourquoi, encore un petit clin d'œil à l'intention de Louis XIV, puisque l'une des allégories parle de l'ordre rétabli dans les finances. Encore une fois, parce que l'autocratie veut de la stabilité. Elle veut s'asseoir sur un budget solide, sur une situation économique qui ne soit pas désastreuse, et bien sûr, sur un système politique qui est à la merci du souverain. Voici la dépréciation des kaïmets de 76 à 80, énorme. L'indexation est à 100 en 1876, on est déjà à 900 à la fin de la période. Tout ça parce qu'il y a une émission incontrôlée des kaïmets, émission de papier-monnaie, sans contre-valeur, sans convertibilité, et même après le ralentissement de l'émission et son interruption en 80, les prix, la dévaluation continue. Voici donc la valeur en piastres or de 100 piastres en kaïmets qui dégringole de pratiquement 90 à 10 pendant la même période. Si vous voulez inverser le graphique, il suffit de regarder la hausse de la valeur de la livre or en kaïmets. Une situation désastreuse, d'autant plus que l'Empire est en faillite, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à obtenir ce qui lui avait permis de survivre jusque-là, des crédits d'Occident. Les emprunts, les fameux emprunts qui avaient débuté en 54 et qui avaient fini par créer une crise financière incontrôlée puisque les derniers emprunts avaient été contractés pour payer les intérêts sur les emprunts précédents. C'est donc un maelstrom financier et pour trouver une solution à cette crise, en fait, il n'y a qu'une solution à cette crise, c'est celle de s'asseoir avec les ayants droit, de s'asseoir avec les créditeurs de l'Empire, c'est-à-dire les places financières françaises, britanniques et jusqu'à un certain point allemandes et autrichiennes, et trouver une solution à cette faillite. Et cette solution, elle est trouvée en 81, en décembre 81, avec l'établissement de ce que l'on appelle la dette publique ottomane. L'administration de la dette publique ottomane. C'est en fait la mise sous tutelle d'une grande partie des revenus de l'Empire afin de satisfaire les demandes de paiement sur les emprunts dont les intérêts n'ont pas encore été payés. Alors, je vous les donne à titre purement indicatif. Déjà, pour rendre la chose possible, on réduit pratiquement de moitié la dette. Et une fois la dette réduite, on fait une liste des revenus de l'État qui seront bloqués, qui seront directement attribués à la dette publique ottomane afin de garantir le paiement régulier de la dette. C'est une faillite. C'est une faillite pratiquement de droit commun, mais appliquée à un gouvernement. Avec cette différence que les autres partis ne sont pas des gouvernements, mais des institutions financières qui représentent des petits porteurs. C'est pour ça que la dette publique, que la dette ottomane est si problématique en Occident, parce que ça n'est pas, ce ne sont pas des crédits qui sont alloués de gouvernement à gouvernement, ce sont des petits porteurs, des épargnants à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Berlin, qui ont acheté des lots turcs, comme on les appelait, et qui maintenant ont des bouts de papier qui n'ont plus de valeur en main. Et ça, c'est très déstabilisant politiquement, financièrement. Les gouvernements veulent trouver une solution à ça. Et du côté ottoman, de toute façon, la situation n'est plus gérable puisque le crédit de l'Empire ottoman est réduit à zéro, à néant. Et par conséquent, il ne peut plus s'alimenter sur les places financières d'Occident pour subvenir à ses besoins les plus pressants. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, d'autant plus que l'Empire sort d'une guerre et qu'il doit payer des réparations à la Russie. Donc c'est vraiment une situation de banqueroute, de faillite désastreuse que 1881, l'établissement de la dette publique ottomane résout avec un compromis entre les intérêts des porteurs et les intérêts de l'Empire ottoman. Donc vous voyez, le monopole des tabacs et du sel, l'impôt du timbre, l'impôt de la pêche, la dîme des soies, l'excédent des recettes, en gros, à peu près 30% des revenus de l'État sont en quelque sorte hypothéqués pour le paiement de la dette. Donc, quand on parle de semi-colonialisme, quand on parle de quasi-colonialisme, c'est un peu de cela que l'on veut parler. C'est-à-dire que, dans le cas de l'Empire ottoman, s'il n'y a pas de mainmise directe sur les territoires de l'Empire, la mainmise sur 30% des revenus de l'État, c'est déjà énorme. C'est déjà une forme de domination qui approche du format colonial. Et encore une fois, ça n'est jamais noir ou blanc, ça n'est jamais si simple, puisqu'il y a quand même un avantage énorme à l'établissement de la dette publique ottomane, c'est que la dette publique ottomane gère les revenus qui lui sont attribués bien mieux que l'Empire ottoman ne les gérait avant elle. Et que par conséquent, la productivité de ces revenus augmente de manière stable pendant toute la période. C'est-à-dire que, en gros, nous arrivons à une période où, malgré la domination, malgré la soumission, malgré la mise en tutelle, l'économie va mieux. Malgré le fait aussi que c'est une période de crise, les années 70, de 70 à 93, c'est une période de crise selon les cycles Kondratiev. Mais cette solution, tout en étant insultante, tout en étant coloniale, si vous voulez, elle a l'avantage d'apporter une sorte de rationalisation, une sorte de stabilité à l'économie qui devient plus performante. Donc, d'un certain point de vue, le règne hamidien est soutenu non seulement par une certaine stabilité, monétaire d'abord et financière ensuite, mais aussi par une certaine aisance, une certaine reprise de l'économie. Les emprunts, encore une fois, vous vous souviendrez, on avait vu la partie jusqu'ici de ce graphique qui indique l'écart qui se creuse de plus en plus entre la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur que l'on paye quand on prend l'emprunt, et la valeur réelle, c'est-à-dire la somme que l'on reçoit effectivement, un écart qui se creuse et qui, dans certains cas, tombe en dessous de la moitié de la valeur nominale. Ce qui veut dire que l'Empire s'engage à payer 100 quand il ne reçoit que 50. C'est ça que cela veut dire. Et lorsque vous regardez les emprunts qui suivent cette date fatidique de l'établissement de la dette publique ottomane, vous voyez qu'il y a un équilibrage, c'est-à-dire que la recette des emprunts remonte aux environs de 90%, parfois 100%. ce qui est un signe d'un crédit rétabli. Crédit rétabli à quel prix ? On l'a vu. Donc, les emprunts étaient émis à un taux qui chutait sans cesse, jusqu'à 30 et quelques pourcents. Encore une fois, la même chose représentée par le taux d'émission. Vous payez 100, mais vous ne recevez que 30. Et ce taux, après 1880, se rétablit et il commence à friser les 80, 90, 100%. Normalisation, en quelque sorte, de la situation. Et les intérêts sur les emprunts, eux aussi, nominaux et effectifs, l'écart qui caractérisait la première période où les taux d'intérêt effectifs étaient bien plus élevés que ce qui était indiqué sur les titres des emprunts, commence à se ramener à un niveau pratiquement identique avec le taux d'émission nominal. Les remboursements aussi, après la chute de 1875, on commence à remonter la pente et l'Empire est devenu encore une fois solvable. Et cela, encore une fois, c'est parce que je l'ai étudié, la Banque impériale ottomane est un exemple, un excellent exemple de cette remontée économique, puisque la banque, jusqu'en 1875, jusqu'à la solution de la crise, avait tendance à se sentir dans l'obligation, parce qu'elle était banque d'État, de prêter à l'État dans des proportions très élevées. Ce qui veut dire qu'en gros, ce qui reste entre le bleu et le rouge constitue la somme que cette banque, qui voulait être une banque commerciale, une banque d'affaires, cette banque pouvait réserver pour des emprunts, pour des crédits à des particuliers, c'est-à-dire à alimenter l'économie. Et tout d'un coup, après la normalisation de 1881, la banque se retrouve dans une situation normale où sa participation aux avances au gouvernement est minimale, tandis que son activité va aller dans le sens d'alimenter le marché. Cela se reflète dans le cours des actions de la banque. Le cours de l'action, qui avait chuté avec la crise, remonte, et par conséquent, la banque devient, elle aussi, à l'image de l'Empire qu'elle alimente, mais qu'elle exploite aussi, puisque la banque ottomane est un des actionnaires majoritaires de la dette publique ottomane. Vous voyez à quel point les relations sont compliquées. Donc, la banque ottomane remonte la pente, elle redevient une institution bancaire proprement cotée à la Bourse de Paris. Autre indication de cette remontée économique, de ce rétablissement économique, les investissements. Et les investissements les plus importants au XIXe siècle, c'est évidemment les chemins de fer. Voici le réseau ferroviaire de l'Empire avant l'avènement d'Abdulhamid. Vous voyez que ce sont des petits bouts de voies entre Constantinople et Edirne, un peu en Bulgarie, entre Salonique et Skopje, entre Izmir et Kassaba, trois fois rien. Et la plupart de ces compagnies sont des compagnies étrangères dont le but, notamment dans le cas des régions des régions agricoles, le but premier est de permettre l'acheminement des matières premières de l'arrière-pays vers les ports. Avec Abdulhamid, dans un premier temps, le réseau est complété, donc en rouge, en bleu ce qui existait déjà. Vous voyez que le réseau devient vraiment un réseau, ou du moins une tentative de réseau. Il est connecté en 1884 à l'Europe, c'est le début de l'Orient Express, et vous le voyez pénétrer en Anatolie, jusqu'à Ankara, jusqu'à Konya, et pendant les dernières années du règne, il sera complété avec la ligne qui est censée rejoindre à long terme Bagdad, le Bagdad-Bahn, le projet allemand auquel participe la Banque ottomane, et les petits réseaux qui réunissent le front méditerranéen à l'arrière-pays syrien et libanais. Et bien sûr, ce que je n'arrive pas à montrer dans sa totalité, la fameuse ligne du Hejaz, le chemin de fer du Hejaz. Alors ça, c'est le grand projet d'Abdulhamid. C'est son transsibérien, le trans-Hejazien. C'est le projet le plus faramineux et le plus ambitieux de son règne et qui rejoint justement toutes les caractéristiques de son système, c'est-à-dire l'établissement de marqueurs de son identité impériale à travers l'Empire. Je vous avais parlé des tours d'horloge qui étaient disséminées en Anatolie et en Syrie à cette époque-là. Le chemin de fer devient l'occasion de marquer encore une fois la présence du sultan, une médaille qui est vendu afin d'alimenter le projet, et encore une fois quelque chose qui va dans le sens de son ouverture vers le monde islamique, puisque beaucoup de musulmans d'Inde et des Indes et d'Indonésie vont participer à ce projet en achetant justement des médailles, donc un projet pan-islamiste qui va être très largement promu dans la presse hamidienne, avec, encore une fois, ces monuments extraordinaires, extraordinairement laids, que sont les tours hamidiennes. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça, par un architecte italien, D'Alonco, Art Nouveau, ce grand spécialiste de l'Art Nouveau, qui a fait des choses magnifiques. Mais quand vous essayez de percher une maquette de la mosquée de Yıldız au sommet d'une colonne Art Nouveau, ça donne des résultats qui sont franchement pas très satisfaisants. Ou lorsque vous essayez d'ériger, encore une fois, une sorte de beffroi sorti d'un modèle de fontaine du XVIIIe siècle, ça donne des résultats, encore une fois, qui sont au-delà de l'atroce. Enfin, la politique internationale d'Abdulhamid, puisqu'on parle de son système, comment la soit-il ? Il la soit sur des concessions et des compromis. Encore une fois, c'est un grand stratège, mais un grand stratège de la faiblesse. Il sait gérer une situation de faiblesse. Il ne va jamais se lancer dans des projets au-delà de ses capacités. Il ne va pas se lancer après la guerre de 78 dans des projets irrédentistes de récupération des territoires perdus. Au contraire, en 78, la situation après 78, c'est une situation de perte territoriale épouvantable. La Bosnie-Herzégovine à l'Autriche, le Monténégro reconnu comme indépendant, la Bulgarie indépendante, au début, selon le traité de San Stefano, c'était pratiquement toute la Bulgarie telle qu'on la connaît aujourd'hui, ensuite le tir est corrigé et on en cède la moitié à l'Empire ottoman sous le nom de Roumélie orientale, la Roumanie qui était déjà autonome devient indépendante. La région de Kars devient en quelque sorte l'Alsace-Lorraine ottomane, puisqu'elle sera occupée jusqu'en 1914, jusqu'à la Grande Guerre, par les Russes. Et Chypre est cédée aux Anglais en contrepartie pour le soutien qu'ils procurent à Abdulhamid lors des négociations qui vont mener au congrès de Berlin, qui va corriger les conditions draconienne du traité de San Stefano. Donc, une déroute complète, et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Abdulhamid sait qu'il va devoir céder sur d'autres territoires. Et si l'on regarde la suite de la décennie suivante, la Tunisie sera cédée à la France en 81. La France occupera la Tunisie sur un prétexte d'occupation, de pénétration en Algérie d'éléments tunisiens. La Thessalie sera cédée à la Grèce en 81. La Crète finira par être reconnue comme autonome et pratiquement grecque en 98. L'Égypte sera occupée et, même si elle reste nominalement rattachée à l'Empire, elle devient de fait une colonie britannique. Vous voyez que partout, l'Empire est en train de tomber en lambeaux. Et ça, c'est le prix à payer. Et Abdulhamid ne s'en soucie pas vraiment, puisqu'il essaye autant que possible de ménager la chèvre et le chou, et surtout de maintenir un équilibre entre les intérêts divergents des grandes puissances. C'est cela qui le maintient en vie. Et bien sûr, c'est l'idéologie. Pour la première fois, encore une fois, c'est une nouveauté pour l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, on a toujours parlé de l'ottomanisme comme une idéologie, mais ça n'est pas vraiment une idéologie, en ce sens qu'elle n'est pas publiée, elle n'est pas publicisée de la même manière qu'une idéologie moderne le serait. Les Ottomans n'ont pas d'idéologie. C'est un empire à l'ancienne, c'est un empire qui a des dogmes, qui a des règles, qui suit un certain modèle pour ce qui est de la hiérarchie sociale, religieuse, etc. Mais il n'y a pas, à proprement dire, d'idéologie telle qu'on utiliserait le terme dans un contexte moderne. Abdulhamid, le premier à gouverner, sera aussi le premier à tenter de créer une ou des idéologies afin de mobiliser la population, mobiliser notamment la population musulmane, la rassembler et, autant que possible, la maintenir dans le giron de l'Empire. Un exemple très bête, très simple, la médaille qui est frappée à l'issue de la guerre russo-ottomane de 78, qui se termine par une défaite catastrophique, la médaille sera frappée à deux fois. Vous remarquerez peut-être que les deux comportent la même date, 1294, le même monogramme, la toura du sultan, la seule différence étant le petit objet décoratif qui se trouve à droite de la toura. Celui-ci est un objet qui, en fait, est une référence au père d'Abdulhamid, Abdulmejid, qui, pour des raisons que l'on ignore, ou du moins que j'ignore, décorait toujours sa toura d'une petite fleur, d'une rose. On voit ça sur les monnaies. Ce sont des petits signes distinctifs qui rendent beaucoup plus lisible une inscription qui, en fait, à l'œil nu, n'est pas lisible. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut vraiment être un spécialiste pour déchiffrer ici le nom d'Abdulhamid et de son père. Donc, ce genre de petits signes distinctifs permettent d'identifier plus facilement une toura. Mais là, nous avons quelque chose de tout à fait nouveau. El Ghazi, le Ghazi. Qu'est-ce que le Ghazi ? C'est une référence à une tradition extrêmement ancienne et extrêmement vague, celle de la Gaza, celle de la guerre sainte, celle de la guerre telle qu'elle était pratiquée par les ancêtres fondateurs de l'Empire ottoman, les beys, les beys guerriers, les princes guerriers du XIIIe, XIVe siècle, pratiquaient, ou du moins prétendaient pratiquer, la gaza, c'est-à-dire la guerre contre l'infidèle, et une guerre dont on revenait avec des gains matériels, bien sûr, le butin, et qui justifiait en quelque sorte l'idéologie de base du clan. Ce terme revient de temps en temps lorsque les sultans vont en guerre. On sait qu'à un moment, Selim III, à la fin du XVIIIe siècle, l'a utilisé. Donc, c'est quelque chose qui est encore dans l'air, sans faire partie de la terminologie officielle. Avec Abdul Hamid, le terme revient. Il l'acquiert pour célébrer sa participation à cette guerre, donc il se considère comme un ghazi, comme un vétéran, comme quelqu'un qui aurait participé à cette guerre. Le fait que ce soit une défaite cuisante est apparemment secondaire. C'est le sultan guerrier, le sultan qui combat pour l'islam. Donc, première tentative, très tôt, à une époque où il n'est pas encore aux commandes de tout l'appareillage, mais un petit détail qui, à mon avis, signifie justement ce que je disais au début, le fait qu'il avait, dès le départ, un plan, qu'il avait des idées assez claires sur l'image qu'il voulait donner de lui-même. Et cette image, elle est elle-même imbriquée dans un discours idéologique qui s'inscrit dans l'islam, dans les valeurs de l'islam, les valeurs, on ne peut pas parler de valeurs nationales, mais les valeurs impériales teintées d'une identité islamique. Je vous l'avais dit, il est aussi le créateur de quelque chose qui était utilisé par certains sultans de manière tout à fait décorative, des armoiries, quelque chose qui est tout à fait neuf, tout à fait inventé, puisque la tradition des armoiries, des blasons, n'existe pas dans la tradition dans l'Empire ottoman, et que par conséquent, c'est un goût acquis par l'occidentalisation. C'est à force de voir les monarchies d'Occident se décorer de décorations et de blasons et d'arborer tous ces symboles de majesté que les Ottomans veulent d'abord, de manière très décorative, s'inspirer, imiter ce modèle. Abdul Hamid ira jusqu'au bout et il créera des armoiries officielles qui seront réglementées et qui représentent l'État. C'est une nouveauté très intéressante puisque, je vous le disais, dans la tradition ottomane, l'État est associé avec le sultan. Et par conséquent, symboliquement, à la mort de chaque sultan, l'État doit être recréé. Si vous lisez Le sérail ébranlé par Nicolas Vatin et Gilles Vensten, vous verrez comment la mort du sultan est un événement catastrophique qui remet en question l'existence de l'État et qui par conséquent requiert la gestion de la succession immédiatement après pour ne pas laisser l'État en déshérence. Et le fait de créer des armoiries pour l'Empire et constitue la première tentative de donner une identité séparée à l'État, séparée du sultan. Ce qui est quand même assez étrange, venant d'un sultan qui essaye justement d'instaurer une autocratie où lui-même représenterait le gouvernement et l'État tout ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est un instrument idéologique qui est extrêmement riche, très m'as-tu vu, j'appelle ça en général un sapin de Noël, parce qu'on y voit un peu de tout. Et encore une fois, c'est une représentation, une preuve, si vous voulez, de ce désir de se constituer une idéologie. C'est là qu'on commence à jouer avec les couleurs vertes et rouges pour symboliser d'une côté l'Empire, de l'autre côté l'Islam, la balance de la justice au-dessus de deux volumes qui sont évidemment le code civil, mais aussi la charia, des représentations d'armes anciennes et modernes. Enfin, c'est vraiment tout un fouillis, un capharnaüm d'objets qui n'ont vraiment pas beaucoup de goût, mais qui ont un sens et qui, par conséquent, deviennent un instrument de représentation de l'Empire qui dévoile la manière dont Abdulhamid veut être reconnu comme une nation moderne, comme un empire moderne à l'image des autres. Et quand on voit l'avers de cette même médaille avec l'aigle impérial de Wilhelm II, puisque cette médaille a été frappée à l'occasion de la visite de Wilhelm II de Guillaume en 1889, on comprend bien quel genre de parallèle les Ottomans, ou du moins Abdulhamid, est en train d'essayer d'établir, avec la différence qu'il n'arrive pas à se défaire complètement de son identité personnelle, puisque là, vous n'avez que l'aigle impérial, l'aigle des Hohenzollern, il n'y a pas de W, il n'y a pas de 2 qui indique l'identité de Guillaume, mais dans le cas des armoiries ottomanes, elles sont toujours surmontées de la toura du sultan. Mais ça devient un objet, j'allais dire commun, pas vraiment commun, puisqu'il est réglementé et que par conséquent, on le voit sur la façade de certaines banques, la Ziraat Banka, c'est la banque agricole, qui se décore des armoiries de l'Empire. Ça devient un symbole impérial, mais aussi un peu à l'anglaise, vous commencez à avoir des fournisseurs de Sa Majesté le Sultan qui ont le droit, par autorisation impériale, d'arborer les armoiries l'Empire. Pour terminer, je vous rappelle cette image que j'avais annoncée tout au début du cours, les deux amis, une paire d'amis, Abdulhamid et Guillaume, bras dessus, bras dessous, sur la couverture de l'illustration, pour donner une idée de la politique qu'il gère vis-à-vis de l'Occident. Il essaye, et il réussit en grande partie, il essaye de louvoyer, de profiter des différends existants entre certains des acteurs de la politique internationale afin de survivre et afin de maintenir l'intégrité de son empire ainsi que son autonomie face à un étau qui se resserre de plus en plus. Alors, je n'ai pas encore pu aborder la question des grandes violences, notamment des violences perpétrées contre les Arméniens dans les années 90. C'est avec cela que je commencerai la fois prochaine, et cela nous amènera au titre de la cinquième leçon, qui est celle des ferments révolutionnaires, c'est-à-dire le problème de la gestion d'une autocratie avec la montée en puissance de courants qui s'opposent de plus en plus clairement à la politique d'Abdulhamid. Comment va-t-il la gérer ? Comment va-t-il tenter de maintenir la visibilité de son califat et de son sultanat dans un environnement où il est de plus en plus menacé par des courants politiques et des courants nationalistes qui s'opposent à son autocratie. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.